Le récit.
Scout, pourquoi pas? Lui, il a été avant qu'ils existent vraiment. Il est devenu l'un des tout premiers chefs des Boy Scouts of America, le louveteau Stéphane Bern. Ajuste son bermuda, remplit sa gourde et nous raconte un pionnier donc du scoutisme, l'écrivain et naturaliste Ernest Thompson Seton.
Nous sommes à la fin du 19e siècle dans la Sierra Nevada sur les flancs du mont Alac. C'est là qu'un petit ourson et sa sœur ont été recueillis à la mort de leur mère par Moy, un petit garçon amérindien. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oh, c'est une belle histoire. Bah,
c'est normal, ce petit ourson-là s'appelle Booba.
Oh, Booba !
Booba !
Booba, le petit ourson.
Oh, c'est toute ma jeunesse, Stéphane.
Sur la blanche
Booba, le petit ourson. Si tout le monde connaît la chanson, peu savent, en revanche, que Booba et son générique, un rien obsédant, n'aurait jamais existé sans un homme qui, avec ses histoires, en a inspiré la sienne, un homme qu'on connaît peu en France, Ernest Thompson Seton. Ernest Thompson Seton est un Anglais dont l'héritage est pourtant aussi riche que celui de Jack London, l'auteur de Gros-Blanc, avec qui Seton partage d'ailleurs une fine connaissance du monde sauvage. Seton est pourtant né bien loin des forêts canadiennes ou des montagnes américaines dans une petite ville portuaire de l'ouest de l'Angleterre. Mais en 1866, à seulement 6 ans, Ernest Seton fait son premier grand voyage lorsque sa famille émigre au Canada du côté de Toronto. Dernier rejeton d'une famille de 8 enfants, le petit garçon ne vit pas une jeunesse facile, victime d'un père autoritaire qu'il fuit à la première occasion pour s'échapper dans la campagne alentour. La nature devient à la fois son refuge et la source de mille aventures. Fasciné par le monde sauvage, le gamin grandit en apprenant à se débrouiller au milieu des bois où il passe le plus clair de son temps à dessiner les animaux. S'il se forme à la peinture, à Toronto, en Angleterre et même à Paris, oui, l'appel de la forêt se fait toujours plus pressant. D'autant que le jour de sa majorité, à 21 ans, Seton vit une expérience qu'il n'oubliera jamais. Son père lui présente une facture de $537.50, une somme qui correspond à tous les frais engagés pour le nourrir et l'éduquer depuis sa naissance. C'est peu, hein. Seton met un point d'honneur à le rembourser jusqu'au dernier dollar, mais il n'adressera plus jamais la parole à son père. Pour vivre, le jeune homme rejoint le ranch d'un de ses frères dans le Manitoba, l'une des régions les plus sauvages du Canada. Pendant des années, il erre en permanence à la frontière entre nature et civilisation. Pêcheur, trappeur ou chasseur un jour, dessinateur, naturaliste et auteur la saison suivante, Seton est un homme des marges, partagé entre son amour profond des grands espaces d'un côté, sa culture et son éducation de l'autre, qui le pousse d'autant plus vers la société humaine qu'on y reconnaît son talent pour le dessin et pour les mots. Nourri par son expérience de la vie et de la survie, en pleine nature, ses récits trouvent un public, et c'est lui, avant Jack London, qui fait véritablement entrer les animaux dans la culture populaire. Entendons-nous bien, on n'a pas attendu Ernest Thompson Seton pour croiser toute une ménagerie dans la littérature, du roman de renard aux fables de La Fontaine, en passant par les contes qu'on se racontait à la veillée, mais ces personnages étaient des archétypes plus ou moins interchangeables, à l'exception de ceux qui servaient de métaphores pour s'amuser des qualités et des défauts de l'humanité en échappant au passage à la censure. Avec Seton, les animaux deviennent les véritables héros de ces histoires, dotés d'un nom et d'une personnalité propre. Booba s'inspire par exemple d'une histoire que l'écrivain a baptisée Monarque, le grand ours de Talac, dont on retrouve aussi des traces dans L'Ours, le célèbre film de Jean-Jacques Hano. Mais la nouvelle qui le rend célèbre est un récit tiré de sa propre expérience de chasseur de loups. Lobo, le seigneur de Corombau, s'inspire en effet de la longue traque qu'il a jadis opposée à un loup puissant et rusé. La mort de Lobo n'a pas grand-chose à envier à celle du loup d'Alfred de Vigny, mais l'intérêt du récit est encore ailleurs. Aperçu saisissant de la vie dans l'Ouest américain, cette histoire, que Rudyard Kipling et Léon Tolstoï ont adorée, raconte d'abord une conversion, celle d'un chasseur qui se transforme petit à petit en défenseur de la cause animale. S'il tue bien le loup, il le fait avec ruse pour montrer que l'animal a bien des sentiments, saisi par des scrupules de plus en plus profonds face à la cruauté dont l'homme fait preuve avec les animaux de la forêt. Si tout cela est fort heureusement courant aujourd'hui, le thème est une révolution à la fin du 19e siècle où l'homme s'est vu comme le seigneur et le maître d'une nature enfin domptée. Pour la première fois, un auteur fait de la vie des bêtes sauvages un récit d'initiation, en narrant leur vie à travers les bois et en décrivant l'intelligence et la ruse des animaux qui luttent pour leur survie. En partageant avec ses jeunes lecteurs le cri d'une gélinotte, le vol d'une corneille ou le piaillement d'un jeune lapin qui apprend à se débrouiller tout seul, Seton montre la dureté, la beauté d'un monde sauvage qu'il n'idéalise pas, mais envoie aussi un message sur les vertus de la persévérance. Au tournant du XXe siècle, Seton, qui a désormais 40 ans, est un homme célèbre, respecté et bien installé sur son domaine de Windigul dans le Connecticut, lorsqu'une bande de jeunes du quartier se livre à plusieurs actes de vandalisme sur sa propriété. Plutôt que de passer le relais à la police, Seton fait alors un autre pari. En les prenant sur le fait, il les invite à partager un week-end avec lui en pleine nature. Drôle d'idée. Pourtant, frappé par l'impact de ces deux jours sur la petite bande d'apprentis vauriens, Seton fonde alors, en 1902, la Woodcraft League, une sorte de club de jeunesse destiné à réunir des jeunes garçons et filles pour leur apprendre à vivre en pleine nature en développant au passage des vertus que Seton connaît bien. La débrouillardise, la solidarité, la camaraderie et le respect du vivant. Le succès est au rendez-vous et très vite, les parents suivent en inscrivant leur rejeton à ce qui est désormais une série de summer camps, des camps d'été organisés autour du mode de vie des Amérindiens, ou plutôt de la culture amérindienne vue par Seton, qui n'échappe pas toujours aux clichés avec des costumes, des tipis, des totems et des veillées au coin du feu. Ce que Seton veut faire passer, c'est l'importance du lien avec la nature, mais aussi la valeur du don gratuit, de la générosité et de l'entraide entre les membres du groupe qui annonce ce qui deviendra le scoutisme. Seton n'est pas le seul à porter les valeurs qui fondent les Woodcraft Indians et le livre qu'il tire de ses expériences, Le rouleau d'écorce de bouleau, trouve vers 1905 un écho puissant chez un Anglais, Robert Baden-Powell. Il est un ancien militaire qui cherche alors à construire une méthode éducative nouvelle destinée à une jeunesse de plus en plus urbanisée qui perd petit à petit le lien avec la nature. En 1907, quand Baden-Powell crée officiellement le mouvement scout en Angleterre, la ressemblance avec les Woodcraft Indians de Ernest Seton saute aux yeux, pour l'excellente raison que les deux hommes ont beaucoup échangé. Bien des valeurs du scoutisme rappellent celles de Seton. La loyauté, l'apprentissage par l'aventure, une morale tournée vers l'autre, le respect et la solidarité envers les membres, le développement du sens de l'organisation et l'initiative, les veillées aussi. L'influence de Seton sur Baden-Powell est telle qu'à la création de l'antenne américaine du mouvement scout, les Boy Scouts of America, Seton en devient l'un des tout premiers chefs en 1910. Mais l'idéal de Seton, pourtant, n'est pas tout à fait le même que celui de Baden-Powell, et certaines fissures vont petit à petit s'élargir. Baden-Powell ne s'adresse par exemple qu'aux jeunes garçons, là où, pour Seton, il n'y a aucune raison d'exclure les jeunes filles. Son pacifisme est aussi une ligne de fracture avec Baden-Powell, dont le passé d'ancien militaire se retrouve dans l'organisation et le nom même des scouts, un mot qui signifie « éclaireur ». Aux États-Unis, à l'inverse, beaucoup reprochent à Seton l'inspiration amérindienne du mouvement, comme le féminisme militant de sa femme Grace, figure des suffragettes, et on ne tarde pas non plus à se souvenir que Seton n'est pas américain, mais britannique. Lorsque la guerre de 14 éclate, les divergences se multiplient plus encore autour de la question du pacifisme, sur lequel Seton ne compte pas transiger. L'année d'après, la rupture avec les Boy Scouts est consommée. Et chaque mouvement poursuit son chemin de son côté. Prêt, toujours prêt. Jusqu'à sa mort en 1946, Ernest Thompson Seton continue de décrire à ses lecteurs la vie des loups, des ours et des coyotes, des cerfs, des lièvres et des perdrix. Un temps masqué par l'œuvre de Jack London, son influence sur la société de son temps est immense et il n'y a qu'à voir la tonalité d'une partie des œuvres de Walt Disney pour comprendre que sans lui, la culture américaine n'aurait pas été tout à fait la même.